Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors nous voici de nouveau réunis pour aborder la condition de l'artiste femme, de la femme artiste au cours du temps. C'est la troisième émission maintenant, comme quoi il y a beaucoup à dire sur les femmes qui s'adonnent à des activités artistiques, qui en font une ligne de vie, voire une profession pour certaines. Aussi, malgré le nombre de celles que j'ai citées, je ne doute pas que j'en ai laissé beaucoup dans l'ombre, l'ombre que l'histoire a jetée sur elles. Malgré tout, j'en ai débusqué pas mal du fond des âges, et pas des moindres, qui ont laissé quelques traces de leurs talents, et si ce n'est pas aujourd'hui, au moins hier, car certaines ont connu, si ce n'est des heures de gloire, au moins une reconnaissance pour les bienfaits qu'elles ont apportés dans le développement de l'art et de la culture. Alors pour résumer, la première émission portait sur les femmes artistes dans l'Antiquité et nous avons découvert des poétesses, des musiciennes, des peintres en Occident et en Orient également. Dans la seconde émission, nous avons présenté les femmes de la Renaissance et vous avez pu constater qu'en parallèle des hommes, elles ont été très prolifiques, notamment en Italie, même si l'accès aux ateliers ou au savoir leur était totalement ou partiellement interdit. Elles se sont débrouillées comme elles ont pu, sauf que parfois, à cause de ces interdits, la confusion pouvait régner, car il arrivait que l'on attribue aux hommes des tableaux peints par des femmes. Et c'est d'ailleurs ce qui arriva, paraît-il, à la belle Elisabeth Siriani, qui dut, pour prouver ses capacités et sa maîtrise artistique, exécuter en public une peinture pour prouver qu'elle était bien l'auteur de tableaux. Alors d'après ce que j'ai lu, il semblerait que cette personne possédait plus de dispositions à focaliser l'attention des hommes sur sa beauté que sur la qualité de ses peintures. Aussi, vu la conjoncture et les mœurs de l'époque, comment s'étonner que ses autres talents soient minorés. Bon, ce fut aussi le cas de la portraitiste anglaise Mary Bell, dont les œuvres ont été confondues et attribuées au peintre Peter Lely. Si bien que lorsque celui-ci décéda, on se tourna vers elle pour passer commande de copie. Et cette femme, paraît-il, excellait dans la réalisation de portraits. Or, comme Lavinia Fontana, dont j'ai parlé dans l'émission précédente, elle était mariée à un homme qui la soutenait dans sa carrière de peintre. Il gérait l'atelier, l'aidait aux tâches quotidiennes, comme à la préparation des couleurs, et se chargeait en outre de trouver de nouveaux commanditaires. Et en effet, nous pouvons dire que les femmes artistes, souvent pour trouver commande, s'appuyaient sur des hommes accommodants qui leur étaient proches. Alors il est juste pour eux de faire ce constat, sachant que néanmoins, le pouvoir restait entre les mains des hommes pour leur ouvrir les portes sur l'économique et accéder à une ascension sociale. Et cependant, comme vous avez pu le voir, certains pères et maris faisaient profiter leurs filles ou leurs femmes de leur facilité. Et nous dirons à ce sujet qu'ils se montraient un peu plus ouverts que le commun. Et même si nous supposons que l'affection portée à la dame justifiait qu'un homme la protège ou la soutient, nous pouvons concevoir que ceux-ci comprenaient également où se situait leur intérêt. Intérêt qui pouvait être, selon le cas, économique, pourquoi pas, ou valorisant pour son nom, pour le nom. Alors, sans compter qu'il est peut-être plus agréable, et là je me permets de mettre mon grain de sel, plus agréable de vivre avec une femme épanouie. Bon, je dis cela par rapport aux critiques masculines entendues sur les épouses acariâtres, à tort ou à raison. Mais si c'est à raison, je peux parfaitement comprendre, comme vous peut-être, qu'une femme qui n'a d'autre horizon que quatre murs avec des corvées domestiques à la pelle, sans reconnaissance ni même de considération, et qui de surcroît doit faire l'impasse pour X raisons sur ses intérêts ou passions personnelles, elle finit par s'aigrir ou s'éteindre, peut-être en mourir, qui sait. Bon, c'est en général ce qui se passe pour tout être humain, femme ou homme d'ailleurs, quand il se sent inaccompli ou écrasé. Alors, beaucoup de femmes de la Renaissance, outre la peinture, se consacraient au travail de la gravure, plus facile possiblement à diffuser. Et ce sont notamment des Italiennes, Alors, je cite le cas de Diana Mantovano, connue sous le nom de Diana Sculptor, fille du graveur Giovanni Battista Mantovano, et dont le talent fut célébré notamment par Giorgio Vasari, l'artiste critique de la Renaissance. Alors, une autre femme graveur italienne du XVIIe, c'est la bolognaise Teresa Mario Coriolano, elle-même fille d'un graveur nommé Bartolomeo Coriolano. Alors globalement, le XVIe et XVIIe siècle sont féconds en talents féminins qui s'expriment, et vous voyez que la plupart quand même sont filles d'artistes. Alors ceci dit, beaucoup d'entre elles peignent des natures mortes, des miniatures, très en vogue à l'époque, et il est facile de penser que ce type de travail, même s'il était en vogue à l'époque, convenait davantage aux femmes exclues des académies où l'on enseignait la perspective, par exemple, car le fait de peindre des natures mortes n'exigeait pas des connaissances qu'elles ne pouvaient obtenir en raison de leur sexe. Alors l'une de ces peintres femmes renommées en nature morte est la milanaise Fede Galizia, elle-même fille d'un miniaturiste nommé Nunzio Galizia. La milanaise Margherita Caffi se distingue elle aussi par la qualité de ses natures mortes, si bien qu'elle reçoit des commandes des grandes familles comme les Médicis ou les Della Rovere. Et c'est également le cas d'une autre italienne du XVIIe siècle, Giovanna Garzoni, dont l'œuvre témoigne d'un tel raffinement que l'on croirait ses fleurs et ses fruits réels. Mais d'autres viennent agrandir la liste des peintres de nature morte, et je nommerai encore la vénitienne Marcella Marcioni, spécialisée dans la peinture de fleurs, ainsi que Margherita Crastona. Alors les natures scientifiques s'expriment également à travers l'art, et c'est le cas de la Suisse Maria Sibylla Merian, intéressée par la peinture, le dessin et la gravure, formée à la peinture par son beau-père, le peintre flamand Jacob Marel, et son art viendra en complément d'une autre passion, celle-ci scientifique, où sa maîtrise des techniques lui serviront à illustrer ses observations et recherches. Et en effet, Maria Sibylla est avant tout férue de botanique et de zoologie, jusqu'à rédiger une œuvre gigantesque. Et elle partira même en terre lointaine, au Suriname, alors colonie hollandaise d'Amérique du Sud, pour étudier la métamorphose des insectes. Et elle financera son voyage grâce à ses collections d'insectes, ses peintures et aussi grâce à une bourse accordée par la ville d'Amsterdam. Et l'importance et la qualité de ses travaux seront reconnues par la communauté scientifique. Alors cette personnalité me renvoie à une autre artiste, une Française née en Corrèze pas si loin d'ici, puisqu'il s'agit de la ville de Juliac. Cette artiste d'origine modeste, que rien ne prédisposait à un destin comme celui qu'elle a vécu, se nommait Jeanne Villepreux. Et son destin prit un nouveau tour, plus favorable quand elle partit à Paris, qu'elle devint une couturière remarquée et que dans la foulée elle se maria à un baron anglais commerçant. Et ainsi, sa vie facilitée, elle entreprit des études, devint en plus femme de science en se laissant aller à une autre passion, la biologie et notamment la biologie marine. Et on lui doit d'ailleurs d'être à l'origine des aquariums, des cages immergées pour observer les animaux marins dans leur milieu, et de découvertes scientifiques importantes. Alors comme Maria Sibylla Merian, elle utilise ses talents d'artiste pour illustrer les ouvrages qu'elle édite, fruits de ses observations et recherches sur la faune marine, les insectes, genre chenilles, papillons, etc. Et elle devient la première femme membre de l'Académie des sciences de Catane en Italie. Alors ce sont des femmes qui ont eu deux casquettes, si je puis dire, l'artistique et la scientifique, mais la qualité se trouve sur chacune. Alors ces deux femmes ont été mises en valeur grâce à l'une de nos contemporaines, une remarquable artiste peintre sur soie nommée Anne Lannes, qui a initié en Limousin un projet culturel et éducatif, qui récrée à science et dont la particularité est de lier l'art et la science. Alors vous pouvez trouver des informations sur internet avec les moteurs de recherche, car ce projet est toujours d'actualité. Et j'avais eu le plaisir il y a quelques années de participer en tant que sculpteur-modeleur aux expositions qu'Anne-Lan organisait en complément de cycles de conférences sur des sujets divers concernant les différentes découvertes en biologie, sur la flore ou le monde animal, etc. Plus présentation de personnalités remarquables du monde scientifique principalement. Et il est vrai que tous ces événements sont très vivants et intéressants, et pour tout public. Et ils démarrent en général avec les beaux jours. Alors, puisque nous sommes arrivés en France avec Jeanne de Villepreux, eh bien restons-y, pour nommer encore d'autres peintres comme Louise Moillon, l'une des plus fameuses peintres de nature morte, qui, malgré tout, a essayé de sortir du registre nature morte où les femmes étaient plus ou moins cantonnées pour aborder des compositions plus riches où apparaissent des figures humaines. Alors, du côté de la Hollande et de la Flandre, c'est encore Rachel Ruisch, Clara Peters ou Maria van Oosterwijk qui également ont laissé leur empreinte dans le registre nature morte qui reste malgré tout le témoin de leur talent ou de leur habileté. Alors les femmes à ces époques se sont beaucoup spécialisées dans les petites toiles ou les miniatures et on les autorisait à les montrer dans la sphère privée, ce qui était un moyen pour elles d'exister en tant que peintres en échappant à la critique ou à l'opprobre que leurs conditions de femmes artistes pouvaient déclencher si elles se montraient trop dans le social. Et elles s'appropriaient ainsi sur des petits formats des sujets dévolus aux hommes. Alors certaines, nous l'avons vu au cours de cette émission, ont transgressé les interdits. Quelques-unes ont gravité autour des cours d'Europe, où elles ont reçu protection de grands ou même de reines, comme Marie de Médicis par exemple, ce qui leur a permis également de se faire apprécier et de rayonner plus largement, car ces reines, dotées de sensibilité artistique, y ont contribué. Alors vous avez constaté lors de mon énumération que beaucoup d'entre elles, celles qui ont pu s'exprimer avec un certain succès, étaient souvent filles de peintres célèbres et ceux-ci les prenaient sous leur aile et elles participaient ainsi également au rayonnement de l'atelier de leur père. Alors je citerai parmi elles la Florentine Marietta Robusti, fille du peintre célèbre surnommé le Tintoret, hein, qui est bien connu, ou la flamande Katharina von Emessen, fille de Jan van Emessen. Quant à l'artiste Orazio Gentileschi, ou Gentileschi, il fut très élogieux sur sa fille Artemisia, qu'il a certainement admirée pour ses qualités de peintre. Alors vous vous souvenez d'Artemisia Gentileschi, Gentileschi, cette peintre qui eut quelques déboires avec la gente masculine et qui aurait exorcisé son mal dans son tableau Judith décapitant Holoferne. Je vous ai conté son histoire dans l'émission précédente. Eh bien le père d'Artemisia aurait écrit à la grande duchesse de Toscane, Christine de Lorraine, ce que je vais vous lire. En 3 ans, elle a acquis une telle technique qu'aujourd'hui, je peux affirmer qu'elle n'a pas d'ego, car elle a exécuté des tableaux que même les plus grands maîtres n'arriveraient probablement pas à peindre, comme en temps et lieu votre Altesse Sérénissime pourra le constater. Alors, c'est un bel hommage hein, d'un père à sa fille, une reconnaissance paternelle qui possiblement a dû lui donner de la force pour accomplir son destin d'artiste malgré les obstacles liés à la féminité et peut-être aussi à l'épreuve qu'elle a subie. Alors encore des femmes, hein, toujours des femmes, rien que des femmes. Plus je cherche et plus j'en trouve, et même maintenant que je ne cherche plus, ben j'en trouve encore, si bien que si cela continue, ben j'en aurai pour plusieurs émissions. Bon, en souhaitant évidemment que cela vous satisfasse également et vous donne encore l'envie de me suivre en leur compagnie. Mais comment passer à côté, car elles sont intéressantes par leur travail d'artiste, mais aussi par leurs existences, parfois leurs déchirures, problèmes spécifiques liés à la féminité, leurs combats, tout cela mêlé afin qu'elles accomplissent ce pourquoi la vie leur a été donnée en dehors de ce que les hommes ou la société leur commandent. Alors elle m'assaille. Là, je vois arriver au XVIIe siècle, toujours la Hollandaise Judith Lester, avec ses portraits et ses peintures de genre, et qui devint maître peintre, statut qui lui donna le droit d'avoir des élèves. Or, tombée dans l'oubli à un moment, l'on sait, comme pour la plupart des peintres femmes, que ses toiles ont été attribuées à des peintres masculins. Or, c'est la peintre française Catherine Girardon, la première femme admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture, distinction qui lui fut accordée pour compenser son talent en dehors de toute considération de sexe, hein, c'est ce qui est notifié, et ce fut en 1663, c'est-à-dire 15 ans après la création de l'Académie, qu'une femme fut acceptée. Alors, sa carrière sera plutôt brève. On suppose qu'elle avait fort à faire pour élever ses 10 enfants et que le conformisme de l'époque s'est opposé à la professionnalisation de son activité. Alors, encore une autre Française, la portraitiste Elisabeth Sophie Chéron, fille du graveur Henri Chéron. Alors, très jeune, elle devient célèbre pour la qualité de ses peintures. Bon, c'est en plus une touche à tout, dotée de multiples dons et capacités pour la gravure, la musique, la poésie, sans compter qu'elle parlait couramment l'hébreu, le latin et le grec. Bon, elle aussi est tombée dans l'oubli, malgré son succès d'alors et ses nombreux talents. Alors, de l'Espagne, nous retiendrons Josefa de Obidos, elle aussi peintre, fille de peintre qui connut le succès avec ses portraits, ses natures mortes et ses peintures religieuses. Alors, il me faut citer les musiciennes également qui ont été très créatives, remarquées, remarquables. Et il semblerait que ce soit plus les initiés qui les connaissent que le grand public. Mais je vais vous citer celles qui émergent plus ou moins de l'anonymat. Alors, au XVIe siècle apparaît la compositrice, chanteuse, luthiste italienne Maddalena Casulana. Je citerai au XVIIe siècle la vénitienne Antonia Bembo, et non pas Bimbo, hein, pour les oreilles masculines qui auraient malencontreusement dérapé. Celle-ci était compositrice, chanteuse lyrique. Elle a composé opéra et cantate. Aussi, 5 volumes de ses travaux sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Une duchesse allemande également nommée Elisabeth Sophie de Mecklembourg-Gustow, également poétesse, a composé des hymnes religieux et des musiques de cour. La Florentine Francesca Cassini, une érudite, fille de musicien, a composé des opéras. Elle a été engagée par le grand-duché de Toscane et s'est mise au service des Médicis. La Flamande Leonora Duarte, d'origine portugaise, qui évolue déjà dès l'enfance dans un milieu de musiciens, s'affirmera à son tour, et notamment en composant. Et ce sont également des religieuses italiennes comme Isabella Leonarda et Caterina Alessandra qui composent, elles, des œuvres religieuses, et encore une italienne, Barbara Strozzi. Et la française Elisabeth Jacquet de la Guerre, compositrice, mais aussi claveciniste très réputée sous Louis XIV et Louis XV. Bon, je pense que le public a entendu au moins une fois le nom et la musique du musicien masculin de cour Jean-Baptiste Lully, mais je doute qu'il ait eu la même expérience avec Elisabeth Jacquet de la Guerre. Alors, elle est issue d'une famille de musiciens, elle aussi, a mené une carrière indépendante, ce qui est assez exceptionnel pour une musicienne de l'époque, et elle a composé des cantates, des opéras-ballets. Eh bien justement, bah nous allons faire une petite pause musicale pour écouter le premier mouvement de la sonate numéro 2 de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Musique. j'espère que vous avez apprécié. Au moins, vous pouvez vous faire une petite idée de ce que la dame était susceptible de composer. Oserais-je parler des femmes poètes, les poétesses, les écrivaines ? J'en ai dénombré au moins une trentaine pour le XVIe siècle, que dire des siècles suivants et même passés. Bon, ceci est parti de réponses que je donne à une connaissance amicale qui me faisait remarquer que l'on n'entendait pas beaucoup parler de femmes poètes du passé, et il se posait également la question de savoir si elles existaient ou avaient été remarquées, dénombrées, etc., et si je pouvais lui en citer quelques-unes. Bon, je ne vais pas toutes les citer, hein. Je rappelle que parmi les peintres et musiciennes, si vous avez bien écouté, vous trouvez des poétesses. Je rappelle aussi que cette émission est la troisième. Je ne pense pas passer le reste de l'année à répertorier et nommer toutes les femmes artistes. Bon, j'en ai envie parce qu'elles représentent la moitié de nos populations. Sans elles, nos sociétés seraient bancales et incomplètes, et il est clair qu'elles apportent leur contribution, comme les hommes, aussi bien ou aussi mal, ou si vous préférez, avec autant d'efficacité que peu, ou autant de talent ou non, bref, c'est positif, négatif ou neutre, hein, selon votre regard, et ce qui ressort de leurs actions. En tout cas, bien des femmes sont présentes, actives, créatives, le plus souvent talentueuses, mais discrètes et silencieuses par la force des choses. Et certaines méritent quand même d'être valorisées un peu plus. Les hommes sont quand même mieux servis, avouons-le. Et si vous vous donnez la peine de faire l'effort de chercher, je dis bien l'effort, et pour cela il faut être curieux et vouloir la connaissance, eh bien vous les trouverez. Et peut-être qu'elles sont sous votre nez, messieurs. Regardez plus attentivement votre épouse, par exemple, même si l'on dit qu'après quelques bonnes années de mariage, l'herbe semble plus verte ailleurs. On ne sait jamais, vous risqueriez d'être surpris, voire ragaillardi, car sous la maîtresse de maison discrète et serviable, vous allez découvrir une artiste, une femme d'affaires, une scientifique, qui sait de quoi donner à nous vos souffles à votre couple pour des échanges plus riches et plus intéressants. Bon, je me laisse aller, hein, emportée par cette ronde de femmes qui m'entraînent dans leur sillage, et si ça continue, eh ben, je vais demander du renfort, et pourquoi pas à Maurice Mélier, poète de son état, Père Noël préféré, président et animateur sur Radio Libre en Périgord, avec ses émissions Balade en poésie, et maintenant, mêliez-vous de ce qui vous regarde. Maurice, si tu m'entends, viens à mon secours. Occupe-toi de toutes ces femmes, par pitié. Bon, je sais que cela ne te fait pas peur, hein, d'autant plus que je vais présenter maintenant quelques poètes femmes du passé qui ont composé des poésies diverses et variées, et peut-être pourras-tu les inviter chez toi. Bon, j'arrête là mes élucubrations et vous demande d'accueillir, bah, déjà celle dont je vous ai parlé, Ninon de l'Enclos par exemple, un coup de courtisane française peut-être, mais aussi femme de lettres, les peintres cités plus haut comme Elisabeth Sophie Chéron ou la duchesse allemande Elisabeth Sophie de Mecklembourg-Gustow, qui aussi ont exprimé leur talent de poétesse. Bon, je vous ai cité également la première émission quelques femmes de l'Antiquité, notamment des orientales, Aïcha al-Qurtubiya ou Radigia, ou issue du sud de l'Espagne, d'Andalousie. Bon, souvenez-vous de Oumalala et Asma al-Amiria. Bon, vous trouverez encore plus spécifiquement des femmes de lettres du XVIIe siècle, comme la française Anne-Marie Barbier, poétesse qui s'est également illustrée par l'écriture de tragédies jouées par la Comédie française, l'une d'elles nommée Harry et Pétus ou la mort de César. Bon, elle a d'ailleurs été accusée d'être le prête-nom d'un auteur masculin. Elle publiera des livrets d'opéra qui auront du succès, fera paraître un périodique nommé Saison littéraire, où seront présentées des critiques théâtrales, notamment les siennes. Alors, vous retrouvez à ces époques Marie de Brabant, femme du seigneur de Brassy, et non pas Marie de Brabant, reine de France du XIIIe-XIVe siècle. Elle a réinterprété à sa manière, notamment en alexandrin, le cantique des cantiques de la Bible, ce fameux texte chantant l'amour. Bon, elle aurait également fait paraître des livrets d'opéra, écrit des pièces de théâtre, a été traduite dans plusieurs langues, comme l'italien, l'allemand ou le russe. Bon, c'est aussi Marie-Catherine d'Aulnoy, dont certains de ses livres furent traduits en anglais, en allemand, en espagnol. Marie de Calage, dont la principale œuvre est Judith ou la délivrance de Béthulie. Antoinette des Houlières, élue membre de l'Académie de France, l'Académie d'Arles en 1689, et dont les principales œuvres sont Poésie de Madame D. Bon, c'est une femme instruite, hein, maîtrisant 2-3 langues étrangères. Une poétesse vietnamienne également nommée Doan Thi Diem, qui écrivit des poèmes dès l'âge de 6 ans en vietnamien et en chinois. Voilà quelques noms de personnalités féminines dont on entend peu parler, mais qui ont laissé des œuvres notables ou témoignages de leur créativité. Alors, je vous disais que plus je cherche et plus je trouve de femmes créatives, que je ne sais bientôt plus où mettre la tête, que ça fuse dans tous les sens, je frôle la surtension, la surchauffe. Aussi, cela tombe bien, nous arrivons à la fin de la mission et ouf, je vais pouvoir me détendre. Mais un prochain rendez-vous est fixé pour continuer avec elle, avec moi aussi, puisque je suis une femme. Bon, j'espère que vous aurez toujours envie de passer un petit moment en notre compagnie. À bientôt. Ben, c'était La Voix des Arts de Christine Darboux sur la Radio Libre en Périgord 102.3, qui vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur Internet, enregistrées en podcast, ainsi que toutes celles de mes camarades animateurs. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.